France Culture.
Le problème de l'aide alimentaire, c'est que d'abord il y a le mot aide. C'est-à-dire que, en fait, vous n'avez plus un droit, vous avez simplement une situation qui fait qu'on va daigner vous aider. En plus, en France, il y a une question qui est assez étonnante par rapport à beaucoup d'autres pays d'Europe ou du monde, c'est que l'État, en fait, n'organise pas cette aide. L'État, il va juste défiscaliser les gens qui font de l'aide. Et donc, donc ça part sur soit la ramasse qu'on peut faire dans des lieux de vente comme les supermarchés, etc., soit les structures comme celle-là qui vont en fait donner à la banque alimentaire, etc., et qui vont pouvoir défiscaliser. En gros, moi, voilà ce qu'un bénévole d'une épicerie sociale et solidaire de Lyon m'a raconté il y a quelques semaines. Ils ont un appel d'un grand supermarché en leur disant « Ah, venez, on a 3 palettes pour vous ». Donc, hop, ils prennent le camion, hop, ils se rendent sur le lieu. Donc là, ils voient des palettes de fruits, notamment de tomates, et puis je ne sais plus trop ce qu'il y avait. Et ils voient de visu que un grand nombre de ces produits sont ajoutés. Et la personne qui les accueille leur dit « Ah, vous prenez tout ou rien ». Donc, vous voyez, alors comme ils ont beaucoup de mal à fournir l'épicerie sociale, qu'il n'y a pas du tout assez de produits, donc ils se disent « on va prendre ». Puis en plus, s'ils ne prennent pas, « ah, on va appeler une autre structure ». Donc en fait, la structure est obligée de prendre les palettes, et ils savent, de toute façon, et c'est ce qui s'est passé, que plus de la moitié est directement à jeter. En attendant, le fameux supermarché a défiscalisé le tout, au prix de vente. Et donc... jackpot.
Écologie et résistance. Épisode 4. La sécurité sociale de l'alimentation pour tous. Une série documentaire de Pauline Mocor, réalisée par Cécile Lafont.
Les pouvoirs publics savent que, en laissant faire le marché, quelque part, et simplement en disant, nous, comme on défiscalise, vous voyez, on aide, d'ailleurs, ça nous coûte très cher, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, ça coûte tellement d'argent que pourquoi vous ne devriez pas le réfléchir vers autre chose qu'une aide alimentaire. Vous vous rendez compte que pendant ce temps-là, on reparle des paysans et des paysannes qui sont chez nous et qui n'arrivent pas à vendre leurs produits. Non seulement les pauvres, ils doivent se contenter de nos rebuts, de ce qui n'est plus bon à manger, mais en plus, on les empêche de participer au véritable circuit économique vital de notre pays. Quelle est la situation de l'aide aujourd'hui en France? Mais en fait, c'est une alimentation non choisie. Par rapport à ses goûts, etc., mais par rapport à sa culture. Par exemple, à Auxerre, le mois dernier, il y avait des palettes et des palettes d'asperges, bon, qui venaient de Chine, rassurez-vous. Vous avez eu peur qu'elles viennent de chez nous, qu'on produit des asperges. Non, elles venaient de Chine. Elles étaient passées de date de plus d'un an, et il y en avait des palettes et des palettes. Sauf qu'il y avait un public pour qui des asperges, ça voulait rien dire au niveau culturel. Ils n'en avaient jamais mangé, c'est pas du tout comment le manger. C'est pas. Et donc, là, on parle vraiment d'une alimentation non choisie, vous voyez, à plein de titres. Et donc, il y a un projet politique qui est de réclamer une nouvelle branche de la sécurité sociale qui serait dédiée à l'alimentation, qui reposerait sur un droit à une alimentation saine, choisie et respectueuse de l'environnement pour toutes et tous. C'est-à-dire s'installer sur le droit à l'alimentation, qui est quelque chose qui existe dans le droit international et qui n'est pas du tout effectif.
Alors... ceux qui aiment la tisane ou pas, ou ceux qui veulent découvrir la tisane. Là, j'ai fait une tisane, c'est menthe et romarin. Voilà, simplement. On commence par toi. Tu veux un petit... il y a du sucre si tu veux. On commence avec cette tisane-là. Comme je disais, c'est local. C'est de saison, je viens de les faire sécher, c'est tout frais.
Le romarin, ceux qui veulent, il y a quelques croissants.
Oh là là, incroyable.
À 500 mètres. Et j'ai vidé le stock.
C'est local aussi.
J'ai racheté le stock.
Et en fait, c'est vraiment ce qui nous rassemble aujourd'hui. C'est la thématique de manger mieux, manger local, manger des produits qui sont le plus naturel possible.
C'est l'heure de la tisane du matin, à base de menthe, mélisse et romarin, histoire de se donner de l'énergie. À la salle des fêtes de Saint-Empuisé, ils sont une dizaine venus pour apprendre à cuisiner des recettes faciles et rapides à partir des produits frais et locaux. le frais, le local et le bio, c'est le principe de cette sécurité sociale de l'alimentation portée par le collectif de la Solicagnole qui tente de développer l'expérience dans l'Yonne sur des territoires à la fois ruraux et urbains.
Donc si vous souhaitez faire la présentation du projet Solicagnole, je pense que c'est le bon moment. Comme ça, après, on passe en cuisine.
Ouais, en deux mots, disons que Solicagnole, c'est...
Pascal Paquin, co-président de la Solicagnole.
L'idée de la sécurité sociale alimentaire. Alors, la sécurité sociale de l'alimentation, elle repose sur trois principes qui sont l'universalité d'une part, la cotisation, c'est-à-dire l'idée qu'on va cotiser selon ses possibilités et recevoir selon ses besoins. C'est vraiment le principe de la sécurité sociale de 1946. Et puis, la démocratie. Alors, on l'a un petit peu oublié, mais en 1946, 1947, etc., jusque dans la fin des années 60, en fait, la sécurité sociale, en France, elle est surtout gérée par les travailleurs et les travailleuses, et donc par une démocratie locale qui gère les caisses. Et donc, c'est ces principes-là qui sont retenus pour revendiquer une sécurité sociale de l'alimentation. En fait, l'idée, c'est de tendre vers des assemblées locales de l'alimentation, où la question des caisses, de leur pérennité, des conventionnements, des grilles de cotisation, des produits que l'on peut acheter ou pas, etc., est posée, et donc permettre de parfaire les caisses dans l'avenir.
Nous sommes maintenant à l'épicerie sociale Magali, en plein quartier populaire des Champs-Plaisants à Sens. Dans l'Yonne, c'est le deuxième lieu d'expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation. On l'appelle ici la Solicagnole, du nom de la monnaie locale, la cagnole, avec laquelle on peut acheter des produits sains, bio et cultivés à proximité.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de la Solicagnole et on a cherché à vous joindre pour la DEPAP. La DEPAP, c'est l'association départementale pour les ex-enfants placés à l'aide sociale à l'enfance.
Karine Bouche est coprésidente de la Solicagnole.
Le but de Solicagnole, en fait, c'est d'offrir, c'est un petit coup de pouce pour manger bio, en fait, sur le territoire, et en même temps d'augmenter les débouchés des producteurs bio sur le territoire. Donc à viser évidemment environnemental et santé, enfin, les enjeux sanitaires et environnementaux sont présents.
Donc sur tout
le département de Lyon, puisqu'en fait, notre outil, c'est la cagnole, qui est donc la monnaie locale de Lyon. Et de fait, on a cette grille de cotisation, qui permet en fait que les gens cotisent en fonction de leurs moyens. Et à la fin, il y a une redistribution qui est faite de 50 monnaies, enfin équivalent euro, qui est donc la e-cagnole, à dépenser auprès des producteurs bio locaux ou d'épiceries solidaires.
Qui sont partenaires donc.
Qui sont partenaires, qui acceptent d'être partenaires. Voilà.
D'accord. Donc l'épicerie Magali en fait partie.
L'épicerie Magali en fait partie, oui, voilà. Donc on cotise à hauteur de ses revenus du 1er au 25 du mois. Le 28, une allocation, enfin une somme en fait, est donnée à chaque personne qui a participé ce mois-là. On a décidé d'une allocation de 50 équivalents à l'euro, donc 50 e-cagnoles, en fin de mois. Mais comme vous allez vous rendre compte que si tout le monde met 30, à la fin vous n'avez pas 50. Donc forcément, on a un partenariat avec la CAF qui nous permet d'abonder ces caisses. Mais ça ne vous a pas échappé que, comme c'est un établissement public, il y a effectivement des baisses de subventions. Et donc, on est à la recherche, effectivement, à la fois des financements privés. Mais du coup, il faut aussi des gens solidaires et qui cotisent à plus de 50 équivalents euros pour pouvoir aller vers un autofinancement qui soit plus que... Enfin, qui soit bon, à 100%, ce serait idéal. Mais en tout cas, qui ne dépendent pas que de subventions publiques.
Alors du coup, on est producteur de lentilles et puis de céréales principalement. Alors, on a aussi un atelier au vin, mais actuellement, j'ai que des lentilles à vendre pour la vente directe. C'est vraiment un produit local par rapport à nos problématiques en agriculture. C'est une légumineuse, donc ça prend l'azote de l'air. Il n'y a pas du tout besoin d'engrais. Donc dans nos systèmes vraiment à la recherche de durabilité, on va dire, arriver à pas être dépendant des énergies fossiles le moins possible, en tout cas, c'est de trouver justement des... Enfin, nous, on cultive beaucoup de légumineuses, des plantes qui se débrouillent toutes seules, en fait. Donc, après, ce qui est important pour les clients, c'est de dire que c'est des petites lentilles. C'est des belugas, donc petites lentilles noires qui cuisent très vite. Nous, on argumente sur le goût aussi, le goût du terroir, parce que ça fait... Parce qu'il n'y a pas du... Nous, on n'apporte pas du tout d'engrais sur la ferme. Donc, les produits ne sont pas poussés à la production, donc il y a plus encore la saveur du terroir.
Ah,
Donc c'est des lentilles en fait. Vous les rincez, vous les versez dans de l'eau froide et vous les laissez cuire 20 minutes. Elles cuisent très très vite.
D'accord. Elle n'a pas besoin de
Et le prix ?
Je vous dirai.
Ben moi c'est Henriette. Je suis adhérente à Magali depuis qu'ils sont installés ici. Donc ça fait 7 ans. Et je viens faire mes courses souvent. Parce que c'est pas loin de la maison. Et c'est pas cher. Même les bio, là, moi, je voilà. Depuis que je suis avec Soli Cagnol, j'achète souvent. Aussitôt acheté, aussitôt cuisiné.
Pour moi, je dis, ah, comment ça, ça va marcher, ça me peut, voilà, le bio dans l'épicerie Magali, ça marche comment, c'est un peu compliqué, tout ça. Ah, nous, on ne connaît pas. Mais dès que, une fois qu'ils ont appliqué tout ça, c'est hyper simple.
Le bio, à la base, c'est plus cher, donc pas forcément oui. Des choses qu'on peut s'acheter régulièrement.
Donc, ça vous est
donc le fait de savoir qu'il y en a ici, on sait qu'on pourra justement une possibilité de pouvoir en acheter et surtout de connaître des produits qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on n'utilise pas.
C'est le crainte pour moi, c'est pour moi le bio, ça coûte cher. C'est pour ça qu'on ne peut pas acheter. Quand ils ont dit qu'on va intégrer le bio ici, pour moi, c'est l'histoire de prix. Est-ce que ça va coûter un peu cher, tout ça? Mais quand on voit ça, non.
Les prix sont raisonnables.
Très raisonnables.
Parce que dans les grandes surfaces ou autres, où il y a du bio, c'est hors de prix. Donc, on donne donc la cotisation de 5 euros et on en reçoit 55 et on fait nos commissions. Et là, donc, les cotisations vont changer à partir sûrement du mois d'octobre. Mais bon, voilà, il faut s'y faire. Parce que y a les subventions qui ne suivent pas.
Le principe, tout le monde profite de manger le bio. Et puis, en même temps, le producteur aussi, il peut gagner de l'argent. C'est donnant-donnant. Et puis moi, si c'est en tant qu'une maman qui a 4 enfants faibles ressources, je ne vais pas aller chez le producteur pour acheter ça. Grâce à Soli Cagnol, j'ai une aide par les caisses primaires et puis ça me permet d'acheter à ces producteurs. Et puis le producteur aussi, il peut gagner un peu de l'argent. C'est ça, pour moi, c'est ce que j'ai compris, que c'est le principe de Soli Cagnol.
Où est-ce que vous mettez les fruits?
Alors, les fruits, ouais, tu peux tout mettre là. Là, ici, on va pouvoir ensuite commencer à tailler, ma chère Dominique. Donc là, voilà. Alors, tu peux tailler ce truc-là. Ça ressemble... on va le tailler en cubes. Normalement, tu as une planche là-bas. Et en fait, on va se tailler des cubes de carottes,
chef,
déjà.
On en fait quoi, de ça?
Ouais, je vais passer la marmite. Et en fait, on va tout mettre dans la marmite très vite.
Alors nous, Soli Cagnol, on a démarré un petit peu vraiment de façon assez singulière par rapport à beaucoup d'expérimentations en France, puisque on est parti d'une situation où des producteurs, des productrices, des paysans, des paysannes étaient en fait dans une situation de plus en plus de précarité.
Pascal Paquin, co-président de la Soli Cagnol.
Puisque les années Covid, ça a été des années où les gens se sont un peu précipités dans les fermes, dans manger local, manger sain. Et puis, il y a pas mal de producteurs et de productrices dans notre territoire qui ont un petit peu investi, qui ont fait une serre de plus, qui ont changé des fois un matériel. Et puis, en fait, en 2022-2023, il y a une inflation assez importante, et notamment qui touche l'alimentation, mais pas que. Et c'est notamment sur l'alimentation, vous savez, qu'on peut raboter. C'est-à-dire, on ne peut pas raboter sur son loyer, on ne peut pas raboter sur sa facture d'électricité. On rabote sur l'alimentation, la qualité. Et la quantité. Et en fait, dans notre département, il y a des paysans et des paysannes qui vont vraiment être dans une situation de précarité très importante. D'après la Chambre d'agriculture, selon les filières, dans l'Yonne, il y a eu en 2022, 2023, 2024, des paysans et des paysannes en bio, notamment, c'est les plus touchés, qui ont perdu jusqu'à 60% de leurs revenus. Et donc, c'est face à cette situation de précarité où, en fait, on est face à des paysans et des paysannes qu'on connaît, nous, à la monnaie locale, et qui nous disent « on va arrêter ». En fait, ce n'est pas tenable. On va être obligé de cesser notre activité, soit quitter le métier de paysan, soit revenir en conventionnel. Et donc, la première grande idée de Soli Cagnol, c'est d'apporter des nouveaux débouchés à des paysans, des paysannes qui en ont vraiment énormément besoin. Et c'est de travailler sur le public des personnes qui ont souvent renoncé à une alimentation de qualité, pensant que, de toute façon, c'est pas pour elles, que ce n'est plus pour elles. que c'est trop cher, trop difficile, trop, etc. Et pour des tas de raisons culturelles, pécuniaires, de aussi de proximité, mais en fait, elles ont totalement renoncé, même si par ailleurs, elles sont préoccupées. Pour elles, pour leurs enfants, pour leurs proches, de la question des pesticides, des perturbateurs endocriniens, de la malbouffe en général, trop sucrée, trop salée, machin. Et donc elles sont réellement préoccupées. Elles savent que, notamment pour leurs jeunes enfants, elles sont même en mal-être, hein, en sachant qu'elles aimeraient tellement à avoir une meilleure proposer de meilleurs aliments. Et puis ces personnes-là, elles sont aussi très sensibles à la précarité des paysans et des paysannes. Et donc, elles ont envie aussi d'être solidaires de ces personnes-là. Et donc, le projet Solicagnol, c'est ça. C'est de mettre en équation ces personnes qui ont besoin, qui ont envie, qui aimeraient, et ces personnes, par ailleurs, qui produisent, sont dans une production qui est excellente, tant pour la santé, mais aussi pour les sols, pour l'eau, pour l'air, et qui n'arrivent pas du tout à vivre de leur métier. Là, je parle de personnes. Nous, on connaît des couples de paysans de paysannes. On en connaît plusieurs. Je parle de personnes qui travaillent au moins 60 heures par semaine, chacun des deux, hein, et qui ont moins de 500 euros par mois.
Bah, pour éplucher, si les apparences,
oui. Et je les épluche et je les coupe.
Tu les épluches juste. Pour l'instant, on épluche.
Pendant l'atelier cuisine à Saint-en-Puisé, nous rencontrons Pierre. Il place de grands espoirs dans cette expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation.
Je m'appelle Pierre, j'ai pas loin de 70 balais. Je réside en Puisé depuis assez longtemps, une trentaine d'années. Et je suis mécanicien en fin de potentiel et engagé dans pas mal d'associations locales, culturelles, sociales et tout et tout.
Les aliments bio, les produits bio, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah ben, je pense que c'est très bien, sauf que c'est pas pour nous, quand je dis nous, les petits. Hein. J'en achète. Il y a certains produits. Et d'abord, sur le marché, je m'adresse essentiellement à des commerçants bio, mais pas que, loin de là. Mais c'est un problème, c'est aussi un problème de classe. Hein. Je veux dire, c'est un problème de classe sociale, c'est-à-dire que c'est quand même vachement disponible pour les gens de la moyenne société qui ont les moyens. Moi, je ne pourrais pas manger que bio. Le système Solicagnol, là, me paraît très intéressant parce que ça va permettre à des gens de mon niveau de consommer et de goûter à ces produits-là. Moi, je les connais, ces produits. Et je sais très bien la différence entre une pomme de production intensive et une pomme bio. Je sens tout de suite la différence. Hein. Mais simplement, c'est aujourd'hui, pour des tas de raisons, ça n'est pas accessible aux gens d'en bas. Personnellement, je ne suis pas dans une situation très très confortable financièrement. C'est-à-dire que je crois qu'on doit appeler le minimum vieillesse. Enfin, je vis avec largement moins de 1000 euros par mois.
Vous très largement. Vous
pouvez
dire combien ?
850 à peu près.
Et qu'est-ce que vous pensez de cette allocation prévue par la Sécurité sociale de l'alimentation ?
Ça ne m'importe pas encore parce que c'est pas encore en place et que je n'ai pas encore touché ce fameux chèque de 50 euros et tout, mais ça m'apporterait parce que quand je vois comment se vide mon portefeuille quand je sors du marché, oui, ça pourrait m'intéresser. Voilà, on verra bien. Mais c'est surtout le principe, moi, qui m'intéresse. C'est le principe d'essayer de faire une solidarité, de faire que il est quand même inadmissible que dans ce pays, des gens vraiment aient des problèmes de nourriture, de problèmes d'alimentation et de qualité de l'alimentation. Parce qu'on le sait très bien que plus on éprouve, plus on bouffe de l'art. Trop petit point. Et que ça provoque aussi des problèmes médicaux. C'est aussi parce que ils bouffent des saloperies sortant de chez Aldi ou ailleurs. Hein.
Et pour l'alimentation, vous consacrez combien alors par mois ?
Je dirais 150 à 200. J'essaie de manger à peu près correctement tous les fruits et légumes, je les achète sur le marché. Je mange de moins en moins de viande. Enfin, j'ai déjà réduit mon budget d'alimentation. Là, depuis 2 ans, vu les hausses de prix, il y a un produit que je ne prends pas ou que je prends en plus rarement.
Par exemple, du beurre, j'en prends tous les 15 jours. Peut-être qu'il y a 3 ans, j'en prenais toutes les semaines. Depuis 2 ans, le coût, la hausse vraiment des produits, même quand on voit l'huile, enfin des produits de base, quoi. Moi, quand je prends une bouteille d'huile, il y a 6 mois, c'était la moitié. Le prix était la moitié. Et ça, là, bon, ok, je regarde dans mon portefeuille, il en reste un peu, mais si dans 6 mois c'est encore le double, je vais faire comment, quoi?
Alors, noir, des belugas. Ça change un petit peu de bouclier vert.
Je suis en fait technicienne de laboratoire depuis 30 ans et le sujet de l'alimentation et des liens qui existent entre santé et alimentation sont apparus assez tôt et en 30 ans j'ai vu le nombre de cancers augmenter.
Karine Bouche, coprésidente de la Solicagnole.
Et maintenant on sait très bien que les facteurs environnementaux, notamment liés au système de production, qui sont délétères pour l'environnement, sont aussi délétères pour la santé. Et c'est un petit peu pour ça que ce projet m'a porté. Voilà, je suis un petit peu partie prenante de ce projet parce que pour moi, c'est important de dire un petit peu non à ce système, en fait, de faire ma part, de faire mon colibri. Et bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce chiffre-là, mais on estime à peu près 19,6 milliards d'euros ce que coûtent en fait les maladies chroniques sur un an, ce que coûtent les processus de dépollution, notamment on a des gros problèmes sur l'eau, hein, avec les nitrates et plein d'intrants chimiques qui se déposent dans l'eau. C'est des dépenses qui servent à rien et qui font souffrir les gens. C'est-à-dire que c'est des dépenses qui pourraient être évitées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si ces 19,6 milliards d'euros, on les mettait en fait à préserver une agriculture biologique, une agriculture saine qui n'abîme pas les sols et qui n'abîme pas la santé des gens, et bien en fait on éviterait de la souffrance. J'espère que les gens s'emparent finalement de ce sujet de l'alimentation, de ce sujet finalement des liens qui existent entre alimentation, santé, faire vivre son territoire, les producteurs qui sont là, qui travaillent.
Et démocratie.
Et démocratie, voilà.
Il y a quelque chose que j'ai entendu trop souvent, vous savez, c'est le truc écologie bobo. C'est-à-dire qu'il y aurait que les gens de classe supérieure, en fait, qui s'intéressent à l'écologie. Et quand on vient dans un quartier comme celui-ci, et qu'on discute vraiment avec les personnes, on se rend compte que les personnes, elles sont totalement préoccupées par l'écologie. Elles savent qu'il y a le réchauffement climatique. Croyez-moi, ici, au mois de juillet, c'était très clair, hein, parce qu'il faut habiter dans ces logements. Même l'épicerie, hein, je sais que j'ai eu quelqu'un au téléphone qui disait « mais c'est très dur à l'épicerie aujourd'hui, et il fait vraiment très très chaud ». Donc elles savent d'abord tout à fait ce que c'est, et elles sont tout à fait sensibles à ça. Comme elles sont sensibles aux questions des pesticides, comme elles sont sensibles aux questions du trop gras, ou trop transformé, elles le savent. Simplement, souvent, elles se disent « l'écologie ou les produits bio, c'est pas pour moi », parce que de toute façon, elles sont obligées d'y renoncer. Hein, et depuis longtemps, depuis de longues années, donc elles y renoncent apparemment. Mais en fait, si on leur offre la possibilité d'y avoir accès, mais elles en sont très heureuses et ça correspond à une attente et à un désir de droit. Et donc l'écologie dans les quartiers populaires, l'écologie dans les populations défavorisées, elle a toute sa place. Elle existe en fait dans les préoccupations et dans les désirs des gens. Simplement, on vit dans un monde marchand tellement inégalitaire que ces personnes-là ça paraît invisible qu'elle s'y intéresse et qu'elle se mobilise sur ces questions. Mais c'est faux.
On s'est demandé ça en mettant peut-être un petit mot pour tous les copains qui ont fait participer à la cantine populaire et puis en essayant de faire du lien comme ça, avec une grosse banderole. Et ça, peut-être, on pourrait attirer des gens qui se posent des questions et du coup mobiliser... Faire d'une pierre deux coups, quoi.
Nous voici à présent à Montpellier. Ici, on l'appelle la caisse alimentaire commune et la monnaie locale sur laquelle elle s'appuie, c'est la mona. Nous arrivons en pleine séance du comité citoyen qui, un samedi par mois, réunit des membres volontaires pour s'investir dans la gouvernance du projet. On discute des problématiques locales avec toujours comme horizon le projet de rejoindre un jour une sécurité sociale de l'alimentation nationale. En attendant de se regrouper au niveau national, les questions du jour sont dans un premier temps abordées en large cercle, puis de petits groupes se forment et délibèrent jusqu'à trouver une décision qui fasse consensus. Parfois, on sollicite l'avis d'experts. On s'informe pour élaborer des solutions mûrement réfléchies. Et tant qu'on n'est pas d'accord, on débat. Et oui, la démocratie a besoin de temps.
Est-ce que ça vous dit qu'on essaye de valider juste déjà qu'il y a une proposition de qu'il y a une banderole Caisse alimentaire commune de Montpellier en manifestation? Est-ce qu'il y a des objections à ça? Ok.
Moi, je serais quand même bien partante pour que qu'on ait notre identité à nous, je trouve ça très bien, mais qu'il y ait quelque part une petite mention expérimentation d'une idée de sécurité sociale. Je trouve qu'il y a la dimension de faire collectif avec aussi les autres expérimentations en France. Le terme
non, SSA, mais le contenu, cool. Ça pourrait être vous vous posez des questions sur la sécurité sociale, voilà. C'est ici. Voilà.
Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Oui. Super. Et bien, les gens qui ont envie de faire une banderole, allez voir Elsa.
C'est la pause. En fait, le concept. Alors, quand on dit démocratie alimentaire, c'est à la fois un concept pour les chercheurs, chercheuses, et ça renvoie aussi à des pratiques très concrètes qui se sont développées depuis maintenant pas mal d'années dans la société, alors que ce soit en France ou ailleurs. Et le concept, en fait, il inclut directement ces questions-là. En gros, il dit aide démocratie alimentaire, ce qui va permettre aux citoyens et aux citoyennes de se réapproprier la question de l'alimentation, la question des systèmes alimentaires, d'en comprendre un peu les enjeux, et de permettre à chacun, chacune, d'avoir accès à une alimentation, on va dire, saine, respectueuse de l'environnement, de la santé des êtres humains, et en laquelle ils peuvent avoir confiance, quelque part. Et par ailleurs, c'est aussi un concept qui renvoie à des initiatives très concrètes, et ces initiatives, c'est justement les jardins partagés, les AMAP, les supermarchés coopératifs, les épiceries associatives, qui ont toujours essayé d'exister en parallèle du système alimentaire principal, dominant, qui s'industrialise, qui se mondialise, financiarise, etc. Et donc, quelque part, cette notion, pour nous, elle est incluse dedans. Alors, on ne va pas forcément parler d'écologie, mais on va parler d'une alimentation, adéquate et d'une alimentation respectueuse de l'environnement et de la santé. Donc, ça inclut cette dimension écologique. Donc, la caisse alimentaire commune de Montpellier, en l'occurrence, parce qu'il y a plein de caisses différentes qui ont des noms différents dans des territoires différents. Donc, la caisse de Montpellier, c'est une expérimentation qui vise donc à travailler autour d'un projet politique qui est le projet de sécurité sociale de l'alimentation. Une sorte de carte vitale de l'alimentation où chacun se verrait rembourser tous les mois à peu près 150 euros d'achat alimentaire par personne. L'enjeu aujourd'hui, c'est de se réunir et de mettre le sujet de l'alimentation sur la table des citoyens et des citoyennes pour définir collectivement comment on veut manger, ce qu'on veut manger et donc comment on veut que ce soit produit, transformé, distribué, etc. Donc c'est vraiment se dire finalement la manière dont on mange aujourd'hui, on fait en moyenne 70 à 80% de nos courses au supermarché. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a choisi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a décidé collectivement? Est-ce que c'est un contrat social qu'on a passé tous et toutes entre nous? Non. Aujourd'hui, le système alimentaire, il est gouverné par les grands acteurs économiques de l'industrie alimentaire et de la distribution. Et c'est plutôt eux qui font le système. Et donc, à Montpellier, on a commencé à imaginer une caisse alimentaire commune.
Le numéro 34.
34. Alors, 4. Alors, deux tomates. Une poire, une blette et une pomme. Je donne une pomme.
Le centre névralgique de la caisse alimentaire de Montpellier est installé dans le quartier de Celle-Neuve à l'Esperluette. Ce lieu associatif héberge aussi un café, une cantine et une épicerie solidaire. Ce vendredi soir, nous assistons à la livraison et distribution des légumes, fromages et pains frais produits localement. C'est toujours une fête. Et nous rencontrons alors deux membres très actifs de la caisse alimentaire, Samira et Lola.
Par rapport aux espaces de prise de parole, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on parle de démocratie alimentaire. Donc dans le comité citoyen, on est une cinquantaine à participer assez régulièrement au comité. On a des profils différents, donc on vient de milieux socioculturels différents, on a des revenus différents, des âges différents. Il y a plus de femmes que d'hommes. Et en fait, c'est intéressant de toujours se questionner sur à qui on laisse de l'espace pour s'exprimer. Et c'est vrai que je trouve qu'on se rend compte quand même qu'il y a peu de conflits Et c'est intéressant, on en parle collectivement et c'est vrai que...
Moi, je n'ai pas eu de conflit.
Voilà.
C'est ça. Ouais. C'est rare qu'on trouve ça dans les associations. Mais je suis désolée, je t'ai coupé la parole.
Pas de souci.
Il n'y a pas de conflit à la comité citoyenne. On écoute tout le monde et tout le monde, son point de vue, il est respecté. C'est ça le plus important. Le fait qu'il est respecté, cela ne veut pas dire qu'on va prendre son point de vue. Mais il est libre de dire ce qu'il veut et la décision sera prise par la plupart en fonction de ce qui répond aux objectifs de la rencontre. Moi, je suis Samira, j'ai 51 ans. Je suis sur le territoire français depuis 5 ans. J'étais au Maroc avant. Et après, en venant ici en France, j'ai commencé à faire du bénévolat dans les associations.
D'accord.
Puis après, je suis là avec la comité citoyenne depuis 2022. Et je me suis trouvée au hasard à la comité. La première fois, j'étais juste pour cuisiner. Je suis venue pour cuisiner à l'association. Et on m'a proposé de participer l'expérimentation, si je veux. Et ben, j'ai trouvé que l'idée était bonne, pourquoi pas. Au début, ce qui était intéressant, c'était les 100 euros pour ne pas mentir. Et avoir 100 monas par mois, c'était un plus pour moi. J'étais à la recherche du travail, je n'avais pas beaucoup de travail. Et je suis maman de 4 enfants. J'avais besoin de quoi payer le loyer, de quoi manger, tout. Mais il n'y avait pas que les 100 monas. Il y avait une expérience, un travail qui était vraiment quelque chose de génial. Une expérience qui vaut la peine. On était un groupe de 40 et quelques personnes au début. On sent la démocratie dans la prise des décisions. Et c'est quelque chose pour moi ce qui était une satisfaction personnelle. J'ai senti c'est quoi la démocratie dans la prise des décisions. Comment on choisit, comment on peut prendre une décision. Il n'y a pas un avis qui est imposé, rien n'est imposé dans l'association. Pour la comité citoyenne, le projet est né entre nos mains. Les valeurs étaient proposées par nous. Parce que la MONA a été créée entre nos mains. Vous savez, la génération 2022... C'est nous qui avons choisi le nom de Mona. Il y avait beaucoup d'autres noms, mais c'est nous qui avons choisi ça. Ce jour-là, c'était un grand festival. La façon avec laquelle était prise la décision de donner ce nom, il y avait tout un partage, tout un mélange. Tu étais là ?
J'étais
non,
pas là.
Tu n'étais pas là. Il y avait le groupe de personnes. Bon, ceux qui veulent ce nom et ceux qui veulent l'autre nom. Puis après... Et voilà, on choisit, il y avait trois, puis après on va retirer celui qui a peu de noms, puis après on va passer sur les deux groupes et on va choisir, on réfléchit, on choisit jusqu'à ce qu'on a. On était tous d'accord sur la MONA. Eh bien, c'était... J'étais de la génération qui ont participé au choix de ce nom-là.
72, il y a une brioche nature.
On n'a pas fait mieux qu'inventer deux formes de démocratie, puis il y en a une troisième qui est en train d'apparaître.
Benjamin Coria, économiste.
Bon, la démocratie dont on a vécu, dont on vit encore, c'est la démocratie représentative, hein, à partir de principes d'élection, et qui est basée principalement sur le pouvoir majoritaire. Alors, l'état de droit, quand il existe... permet de préserver le droit des minorités. Maintenant, on voit bien, nous qui vivons dans ces systèmes, que c'est loin d'être parfait. Hein, c'est loin d'être parfait. Alors, on a ajouté à ça une deuxième forme, qui est la démocratie participative. Alors, la démocratie participative ne touche pas aux droits des majorités élues. Hein, mais les majorités élues, dans un certain nombre de cas, acceptent de remettre un certain nombre de décisions et souvent de budgets entre les mains des citoyens. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative. Et puis, naît de plus en plus une troisième forme qui est ce qu'on appelle la démocratie délibérative. Alors, la démocratie délibérative, c'est quoi? C'est la recherche de prise de décision par la délibération. Et c'est basé sur la voix. Hein. Ça veut dire que la voix, y compris des plus pauvres, des plus démunis, est respectée, et même on va la chercher. Bon. Et on va le plus loin possible pour arriver au consensus. L'expérience montre que si on veut la pratiquer, on y arrive. On y arrive. Ça prend du temps, c'est compliqué, mais on y arrive. Et la deuxième caractéristique de la démocratie délibérative, c'est que une solution écartée ne l'est jamais définitivement. Que même en consensus, on peut se tromper et que on peut revenir à des positions qui ont pu être minoritaires à un moment donné. C'est ça qui caractérise, par exemple, la caisse alimentaire de Montpellier. C'est de la démocratie délibérative. Personne n'est élu là-dedans. Personne n'impose sa règle, etc. Le comité de citoyens, les différentes structures de gouvernance délibèrent à chaque problème et, comme toujours en démocratie délibérative, arrive à des consensus, c'est-à-dire à des majorités extrêmement larges. Il y a des décisions qui, une fois la décision prise, s'imposent. Parmi les caisses que je connais, celle de Montpellier est pour moi la plus intéressante parce que précisément elle expérimente des formes citoyennes de délivrance de ce nouveau service.
Alors, le comité citoyen.
Amel, membre du comité citoyen.
J'ai rejoint l'expérience en 2022. En fait, j'ai travaillé un petit peu avec le Secours populaire dans une commission santé. J'ai rien contre le Secours populaire, mais l'idée d'associer les personnes concernées et puis de ne pas faire de la distribution comme ça, ça m'a plus parlé. Ça me convient davantage que de là on construit ensemble, on fait pas pour. Enfin, d'ailleurs il n'y a pas d'organisateur, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a des animateurs et puis les personnes qui veulent prendre part aux différents groupes qui sont proposés et qui sont un petit peu le ciment de ce qui va se décider en réunion plénière, tout le monde peut y aller et c'est le cas. Toute place est à construire. Moi, je la construis aussi au fur et à mesure. C'est pas évident d'emblée, non ? Ou comment associer davantage les minorités ? C'est vrai que c'est des questions qui restent à l'ordre du jour. Quand je parle de minorités, je parle de personnes qui, a priori, sont exclues des débats formels, des décisions politiques, tout ça. Et donc, c'est comment les faire participer, mais pas d'une manière un petit peu artificielle, en fait. Comment ils sont écoutés, comment leur parole est prise en compte. Comment dirais-je, si on n'est pas rodé à un certain langage, on n'est pas a priori, on ne comprend pas forcément ce qui se passe. Le fait d'être présent, ça ne veut pas dire qu'on participe. On admet des personnes qui ne maîtrisent pas la langue et comment leur... Enfin, il y a un langage spécifique quand même. Il y a des fois un langage très compliqué qui n'est pas à la portée de tout le monde.
De ma nature, je ne parle pas beaucoup. De ma nature, je suis quelqu'un qui est conservé, je ne parle pas.
Samira, membre du comité citoyen.
Mais à la comité citoyen, je ne sais pas, ce plaisir de causer comme... Tout le monde veut t'écouter, tout le monde veut voir ton point de vue. Du coup, il faut partager tout et on essaie de trouver ce qui nous convient le plus, prendre l'avis de tout le monde, tant qu'on est tous des membres.
C'est-à-dire que quand vous parlez pas, les gens vous disent « mais qu'est-ce que tu as à dire ?» Ils viennent vous chercher.
Mais oui. Là, le fait qu'on fasse des ateliers, on est de petits groupes, tout le monde prend la parole à chaque fois, on entend et on aime entendre tout le monde. Si tu parles pas, il y a toujours quelqu'un qui est bien. Et toi, qu'est-ce que tu penses ? Eh ben, on s'exprime, voilà.
Ce qui se fait, disons, autour de la caisse alimentaire de Montpellier est formidablement novateur. C'est non seulement une extension de ce qui peut devenir un service public, mais c'est un principe de fonctionnement de ce qui peut devenir un service public complètement différente des formes qu'on a connues dans le passé. Le service public, il est basé sur trois principes qui sont l'universalité d'accès, la continuité, il ne doit pas être interrompu, et la mutabilité, c'est-à-dire son adaptation. Bien. Avec le temps, ces trois principes soit ne sont plus respectés, soit ont servi à l'altération du service public. Bon. Alors, tout ça pourquoi ? Parce que le service public, il est basé sur le principe d'autorité. C'est l'administration qui décide de qu'est-ce qui est bon, comment on fait l'universalité, comment on fait, etc. Bien. Voilà pourquoi le commun est essentiel, parce que le commun, c'est les citoyens qui décident. Bon. Ça, c'est la première différence. Le commun est basé sur la délibération citoyenne et pas sur la relation d'autorité. Ça, c'est une première différence fondamentale. Et la deuxième différence fondamentale, c'est que le service public fonctionne que sur la règle générale, hein, puisque c'est celle de l'administration. Et au contraire, le commun, lui, il est basé sur la délibération citoyenne au sein des communautés locales qui offrent et bénéficient du service. Et donc, échapper à la règle permet de satisfaire aux besoins locaux.
On est au cœur de la lutte des classes, hein, parce que la provenance des personnes qui participent à l'expérimentation, ça concerne des quartiers populaires, des quartiers moins populaires, et donc le lien étroit entre la transition écologique et la lutte des classes. C'est comment aussi arriver à associer les personnes qui parfois sont éloignées de l'écologie ou considèrent que c'est une problématique de bobo, et que quand une femme qui vit seule et qui fait les 3-8, effectivement, elle va pas se casser la tête, aller à l'Esperluette, aller chercher les produits chez le maraîcher ou des choses comme ça. Elle va au plus simple, au plus rapide. Effectivement, c'est la grande surface. Voilà. Mais quand on rentre dans l'expérimentation, c'est possible, ces petites choses-là, effectivement. Même cette personne qui est seule, avec trois enfants, qui fait les 3-8 et qui est vraiment submergé par les questions du quotidien, il y a moyen d'eux, quoi. Mais c'est nous aller chercher ce monde-là aussi. Et je pense que la transition écologique et la lutte des classes, ils peuvent être liés aussi de cette façon-là, quoi.
Ce comité citoyen, il vit comme un espace d'apprentissage en commun, avec des intervenants qui viennent discuter avec les personnes, avec des temps où on va partager des expériences de vie, par exemple, en rapport avec l'alimentation des enfants. Voilà, ça peut brasser autour de plein de sujets.
Pauline Scherrer, sociologue.
Et l'idée, c'était de se dire comment finalement on peut rentrer dans la complexité de tout ça, système alimentaire, impact écologique, dimension santé, mais d'une manière qui soit accessible à tous et qui se base surtout sur les savoirs de chacun chacune. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 50-60 lieux ou producteurs en direct qui sont conventionnés par le comité citoyen. Ça veut dire qu'ils ont été choisis en fonction de critères que le comité citoyen a lui-même élaborés. On part du principe que tout le monde a des savoirs, donc les citoyens, les habitants, les agriculteurs, des médecins, des chercheurs, des travailleurs sociaux, des personnes qui travaillent à la Sécu. Enfin, ce comité citoyen, il vit comme un espace d'apprentissage en commun, comme on pourrait dire un espace d'éducation populaire autour de l'alimentation, où se croisent les savoirs. Et donc, c'est un espace qui vit depuis 3 ans et qui a su prendre des grandes décisions concernant la caisse. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps et ça, de toute façon, on ne pourra pas y couper. C'est-à-dire que si on veut être dans des espaces démocratiques, on a besoin de temps. Et donc, il y a le fameux sujet qui dit « A-t-on encore le temps de la démocratie par rapport à la crise écologique ?» Mais en fait, on n'a pas le choix. Enfin, moi, en tout cas, l'hypothèse à partir de laquelle je travaille, c'est que si on n'en fait pas un sujet démocratique, il n'y aura pas de transition écologique.
Ça prend du temps, mais...
Lola, membre du comité citoyen.
Mais en fait, c'est un temps qui est précieux pour se retrouver, pour échanger. Et je pensais pas que je serais aussi contente de me réveiller le samedi matin à 8h pour venir à un comité citoyen. Mais ouais, non, c'était vraiment des temps chaleureux. On fait de super rencontres.
On est là pour prendre des décisions. On a créé des amitiés. On est des amis. Le fait qu'il y a de bonnes relations entre les membres de la comité citoyenne, cela veut dire que les membres, même s'ils sont un peu lents pour prendre les décisions, ils sont agréables. Ils sont mais agréables.
Mais où est-ce que vous trouvez ce temps, tout ce temps ?
Il faut le trouver. Il faut, j'ai vidé la matinée. Demain, je travaille la matinée. Et j'ai rapporté le travail l'après-midi pour venir à la comité citoyenne. Il ne faut pas que je la rate. Avant, j'étais prof de PS, éducation physique et sport, au Maroc, pendant 23 ans. Eh bien, le fait de me trouver ici en France, c'était impossible d'exercer le même métier. Du coup, là, je travaille dans le ménage, je fais la cuisine pour des personnes, voilà, aide aux personnes handicapées. Je fais tout et n'importe quoi. L'essentiel, c'est une source d'argent propre pour moi. Je suis payée à l'heure. Ça ressemble des fois 2 heures du travail et 1h30 de trajet. Au début, je prends les tramways et tout, mais ça me prenait un temps fou. Mais avec la trottinette, c'est moins de temps. J'essaie de trouver toujours des raccourcis qui me facilitent les choses, mais dans la période hivernale, c'est trop compliqué. On ne peut pas courir. Sinon, on glisse, c'est trop risqué avec la trottinette. J'ai tombé maintes fois. Ah, j'ai tombé maintes fois. Nous, on a des personnes qui sont humains et me payent bien, et d'autres non. Et d'autres vraiment, ils sont, je sais pas, des malades. Vraiment, c'est des fois des trucs un peu bizarres, vraiment qui me rend la vie un peu difficile. Mais je vois que pour moi, c'est le stress de la semaine part en participant à la comité citoyenne. C'est un effort qui me donne de l'énergie. Et je sens que je suis un être humain en y allant. Vraiment, ça touche le côté humain en moi d'y aller à la comité citoyenne.
On l'aura compris, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est la démocratie délibérative en acte. Les consommateurs décident de chaque règle de fonctionnement. Tout comme ils décident de ce qui arrive dans leurs assiettes et de qui le produit. C'est radicalement novateur, c'est un renversement du système de l'offre et de la demande qui est dominé aujourd'hui par les industries de la transformation et de la grande distribution. L'outil central, c'est le conventionnement. Par ce processus, le comité citoyen choisit les producteurs et les points de vente chez qui les consommateurs vont pouvoir dépenser l'argent de la caisse. En choisissant ainsi les acteurs à soutenir, le comité citoyen est en train de transformer, démocratiquement, le système alimentaire de production et de distribution. Mais comme toute expérience démocratique, la caisse alimentaire de Montpellier rencontre un défi. Comment associer les producteurs au processus démocratique ? Nous allons les rencontrer au marché des Arceaux, qui se tient chaque samedi matin à Montpellier. Les producteurs viennent des environs pour vendre leurs produits gorgés de fraîcheur. Quand on leur pose la question, ils sont quasiment tous d'accord pour dire que la sécurité sociale de l'alimentation, c'est une bonne idée sur le papier. Mais cela semble plus facile à dire qu'à faire, puisque seulement 3 stands sur 80 sont pour le moment conventionnés.
Voilà, il faut la manger tout de suite. 2,90 s'il vous plaît. Merci. Ouais, bah Claire Bonin, je suis productrice à Crestry, en bio, mention nature et progrès. Voilà.
Vous produisez quoi ?
Du maraîchage, du légume.
Mais plein de trucs.
Oui, et beaucoup d'aromatiques aussi, la tomate ancienne. Et puis les légumes de saison. Je crois que ça a commencé comme ça, il y a peut-être 2 ans. C'était au cours d'un festival de la tomate. Voilà, donc on est venu me proposer. Ben pour moi, ça ne me pose pas de problème. Hein. Ça ne change pas grand-chose, mais ça permet de, voilà, peut-être à certaines personnes de pouvoir manger de la nourriture de qualité. Et voilà, 10. Bonne journée, merci. Merci.
Et est-ce que vous aimeriez vous impliquer plus dans l'organisation, le comité citoyen par exemple ?
Alors là, je vous avoue qu'au niveau du temps, on a des boulots qui sont quand même vachement prenants. Voilà. Il faudrait que ce soit ou après un marché ou des trucs comme ça. Je vous avoue qu'en dehors du marché, je ne reviens pas sur Montpellier, quoi.
C'est vrai qu'avoir des producteurs, mais dans le comité citoyen, on aurait fait cohérence assez rapidement à l'idée de relier les mangeurs et les producteurs qui finalement sont aux extrêmes d'un système alimentaire et qui sont les plus précarisés finalement d'un système alimentaire. Donc aurait fait sens.
Marco Locuratolo, sociologue.
Mais les choix qu'on a fait collectivement, y compris avec les habitants, c'était de dire on y vient tous en tant que citoyens, les producteurs ils peuvent y venir en tant que citoyens et c'est là qu'on retombe sur des questions de disponibilité, de temps. On parle aujourd'hui, on est à la 36e séance du comité citoyen de travail. Ce sont des demi-journées, des samedis. Voilà. Impliquer des producteurs dans ces espaces-là, c'est pas simple.
Donc, je m'appelle Christophe Brodu, éleveur de chèvres et de brebis à Villeveyrac. Économie circulaire et sociale et solidaire. C'est très bien. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je n'ai pas beaucoup d'infos là-dessus. Mais je pense que si on était abordé, si on était plus impliqué dans ce système, je ne serais pas là à me poser des questions comment ça fonctionne. Voilà. C'est dommage, hein. Ça paraît descendant. Comme beaucoup de choses dans notre vie aujourd'hui, c'est encore, pour moi, c'est encore une chose quelque chose qui a été créé et sans impliquer tous les acteurs. De la filière, on va dire. Les producteurs, les consommateurs, les éventuels consommateurs qui ne se sentent pas des consommateurs.
Vous souhaiteriez que, en fait, les producteurs ils soient associés à la...
Moi, je ne souhaite rien du tout. Je déplore. Aujourd'hui, je n'en suis plus à souhaiter. Je trouve que c'est des choses qui se répètent dans tous les domaines. Il y a des gens qui ont des idées, de bonnes idées, mais elles ne sont pas articulées correctement pour la mise en route. Donc il y a des choses qui existent et qui existent mal parce qu'il n'y a pas de bonne communication, il n'y a pas l'implication des gens. Et c'est dommage parce qu'en général, quand ça existe, après, pour faire raccrocher les gens, c'est compliqué. Alors que si on dit on va créer et qu'on fait de la création avec tous les acteurs concernés, le fait de créer, de participer à la création, ça fait une espèce d'émulsion et ça prend beaucoup mieux. C'est mon constat. Ouais. Avec ma petite expérience, hein.
Une des difficultés, c'est de créer une relation de confiance avec le milieu paysan.
Pascal Paquin.
Qui est un milieu qui a été assez échaudé, en fait, par la période Covid, où il y a eu une augmentation forte de la demande, où on les a pressés de répondre à la demande. Souvent, ils ont investi d'un point de vue humain, d'un point de vue financier, d'un point de vue des machines. Après, il y a eu un effondrement de la demande très important. Et donc, ils étaient en difficulté. Et quand nous, on va les voir en disant « Ah bon, on met en place des caisses de sécurité sociale de l'alimentation, on a de nouvelles idées, vous voyez, vous allez vous en sortir, ça va être intéressant pour vous et tout ça », ils ont un temps nécessaire de mise en confiance. C'est-à-dire que c'est le phénomène un petit peu écolo-bobo, c'est-à-dire que c'est le phénomène de dire qu'il y a des gens qui ont un peu les solutions à tout, qui ont des grandes théories, qui ont des gros diplômes. Et en fait, c'est pas du tout que les paysans ils sont méprisants ou défiants vis-à-vis de ça. C'est que simplement, eux, ils ont des réalités très concrètes et que il y a un temps nécessaire de mise en confiance. Et un des problèmes, un des soucis de certaines expérimentations, et c'est ça, c'est d'avoir pris beaucoup de temps démocratique à tisser le projet et à expliquer les mangeurs en établissant ce qu'ils voulaient manger, etc. Sauf que les paysans, face à ça, ils sont obligés d'avoir de pouvoir partir de leur propre réalité aussi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas forcément fournir ce qu'on leur demande et quand on leur demande. au niveau des paysans bio que l'on connaît, ils sont hypersensibles au fait que des gens plus en précarité, etc., puissent avoir accès à leurs produits. Et donc, ça résonne en eux. Simplement, le souci pour eux, c'est que ils peuvent pas être dans des projets feu de paille. C'est-à-dire, ce que j'appelle le projet feu de paille, c'est un projet qui va peut-être durer 3-4 mois, une expérimentation de 5-6 mois, parce qu'il y a un financement qui est assez court. Le problème, c'est que le paysan, lui, le temps qu'il organise la répartition de ses terres, l'organisation de leur mise en culture, et puis quelquefois d'investissement, etc., de choix qu'il doit faire sur son entreprise, sur ses terres, ça ne correspond pas, en fait, au niveau temporalité. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait des paysans, des paysannes qui soient, dès le départ des expérimentations et dès le départ dans les assemblées populaires, les assemblées locales de l'alimentation qui conçoivent le projet, c'est très important, c'est sûr. Alors, notre solution, nous, ça a été au conseil d'administration de Soleil Cagnol, il y a 50% de paysans et de paysannes. Donc ça, c'est une vraie solution. C'est-à-dire déjà, c'est la gouvernance à aller fortement paysanne, puisque nous, c'est un peu le départ de notre projet, répondre à des urgences au niveau du local des paysans. Et d'autre part, on a eu la possibilité d'employer un coordinateur pendant quelques mois issu du milieu paysan. Et il n'y a rien de mieux qu'un paysan, que quelqu'un issu de la paysannerie pour aller parler à d'autres paysans. C'est comme ça.
Ça me donne aussi beaucoup d'espoir de se dire qu'on arrive à travailler collectivement, qu'on arrive à s'entendre, à prendre des décisions ensemble et qu'on mange en fait tous les jours, et donc rien que le fait de manger, ça nous rend experts de ce sujet-là, et donc en fait c'est des sujets dont on se dessaisit parce qu'on pense que voilà qu'il y a que les politiques qui peuvent en parler, c'est ce qu'on nous fait croire, mais là on se rend compte qu'après on est capable de prendre des décisions qui sont justes et qui nous ressemblent et qui correspondent à nos valeurs.
Les politiciens, mais oui, les politiciens, ils vont répondre à leur agenda. Mais nous, notre décision, elle dépend de nous, de ce qu'on veut, de nos besoins. La prise de décision doit être à nous.
Et on est prêt à lutter pour un vrai droit à l'alimentation.
Le vrai droit, un mot très important. Il doit être vrai et un droit. Du coup, si les politiciens ils vont mettre le nez dedans, il devient ni vrai ni droit. Vous devez être sûr.
Merci à Pascal Paquin, Clément Voisin, Karine Bouche, aux habitués de l'épicerie Magali, à Mélanie Petit de la Ferme Vivante, Angélique Bouillot, Pierre Faucheur, Lola, Samira et Amel, Pauline Scherrer, Benjamin Coria, Marco Locuratolo, Sébastien Levionnois, Claire Bonin, Christophe Brodu et mention spéciale à Dominique Paturel. Prise de son, Benjamin Thuot, Nicolas Mathias, Manon Houssin, Geoffrey Marianne, Xavier Lévesque. Mixage, Éric Boisset. Documentation, Annie Signoret. Archivina, Véronique Jolivet. Chargée de programme, Marie-Bonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Écologie et résistance. Épisode 4, Sécurité sociale de l'alimentation pour tous. Un documentaire de Pauline Mocor, réalisé par Cécile Lafont.